tous les dimanches sur Radio Lac entre 11h et midi, soleil d'un jour, avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, rien de brume à l'horizon, le soleil va peut-être se lever, vous êtes à 2500 mètres dans les Chapas, du côté de Chamula.
Nous étions déjà à Chamula, dimanche dernier Maurice, on a visité la place centrale, on a visité l'église.
Cette espèce de ruche étrange, nous avons senti l'ambiance locale, on a créé une sorte d'univers, nous avons refait le cosmos des Indiens de Tzotzil, nous ne sommes pas vraiment au Mexique, puisque les Chiapas ont appartenu très longtemps à cette étrange province qu'était le Guatemala, une sorte d'à côté de la vice-royauté du Mexique, et cette capitainerie générale qui était totalement indigène, comme aujourd'hui encore, on a plus de 60% d'indigènes dans ce pays, et j'ai toujours envie, lorsque je parle des Chiapas, de les assimiler à ces hautes terres. Guatemala veut dire le pays des forêts. On sent que c'est de la même veine, que c'est le même milieu. Et vous vous rappelez, Frédéric, nous évoquions la vie de cet indigène qui, au début du siècle, avait été vendu, un peu comme Joseph et ses frères, avait dû sortir de sa communauté, avait été chassé de chez lui.
Il est revenu des années plus tard.
Tout à fait, il a vécu 10 ans en dehors de ce village de Chamula. En fait, il était du hameau de Cuchulumtic, qui fait partie de Chamula. Et on avait en fait repris sa biographie, on lui avait fait raconter sa vie dans les années 30. Elle avait été enregistrée, les premiers enregistrements, par un ethnologue qui était Ricardo Posas. Et on va décrire ce pénible, ce très long apprentissage finalement de la vie, et surtout cette façon de devoir redevenir à l'âge adulte un enfant pour retrouver sa propre communauté, pour retrouver surtout sa place dans cette communauté qu'il avait abandonnée tout enfant, et finalement à la suite de cette fugue dans le monde qu'on appelle le monde ladino. C'est un mot qu'on va beaucoup utiliser.
Le monde
ladino.
Ladino.
Il y a le monde indigène, le monde indien, et puis le monde ladino, c'est tout ce qui est externe, c'est tout ce qui est en dehors de la plaque de cette espèce de monde, de ce cosmos carré dont on a parlé et qu'on a essayer de décrire. Et finalement, les ladinos, c'est peut-être des blancs, mais c'est peut-être aussi des métis, c'est des gens qui vivent simplement à l'extérieur d'une autre façon, qui n'ont pas les mêmes lois, qui ne sont pas des hommes vrais. Et alors, il va réapprendre le tzotzil, qui est la langue maya de la région,
qui est sa
langue maternelle au départ, et il va devoir même réassimiler complètement l'héritage culturel de son groupe. Alors, c'est curieux parce que, comme adulte, il va réapprendre les jeux d'enfants. C'est-à-dire, les enfants ne jouent pas vraiment chez les Indiens, mais le jeu de l'enfance, c'est vraiment cette formation, on le verra peut-être aujourd'hui, cette façon de devenir un petit adulte tout de suite. C'est-à-dire de s'assimiler et de se coller vraiment au sexe qui vous correspond. C'est-à-dire, le petit garçon va immédiatement se coller à son père comme la petite fille va imiter sa mère. Et jusque dans les détails les plus élaborés, les plus incroyables du rituel, il devra tout réapprendre. Et finalement, il va devoir être reconnu petit à petit par les Chamula eux-mêmes comme étant l'un des leurs. Donc il était ladino finalement, il doit se transformer en indien. Et il va même reprendre petit à petit une position, une sorte de droit qui correspond à son âge et qui aurait dû correspondre à son rang par rapport à cet âge. Et ça va prendre plusieurs années. Et le cas de Juan Pérez Roloté, moi, il ne m'intéresse pas tellement parce qu'il est tout à fait conforme à ce qu'exige la communauté. Mais c'est surtout cette façon qu'ont eu les membres de l'obliger à faire certaines choses. Mais ce qui me fascine, c'est cette espèce d'attraction que représentent tous ces rituels, toutes ces choses pour ceux qui en font partie, pour ceux qui vivent à l'intérieur. Le plus étonnant, c'est peut-être aussi qu'ils aient refusé au départ de reconnaître Juan Pérez Roloté, mais que lui-même, après 10 ans de vie à l'extérieur, il ait surtout eu besoin de se faire reconnaître d'eux et finalement de renouer avec cette tradition culturelle qui était devenue pour lui complètement étrangère. C'est un cas, si vous voulez, mais un cas qui nous montre à quel point, quand je dis attraction, c'est vraiment cette fascination que l'indigène a pour son propre monde. Il est complètement pris dans une toile d'araignée extrêmement complexe qu'on va essayer de décrire aujourd'hui, simplement pour se rendre compte à quel point, dès la naissance, on est pris dans le filet et on ne peut plus en sortir. Et la fascination commence au moment où on admet et qu'on vit avec ces règles. Alors je dirais que quand on touche au système indien, Autant chez les Tzotziles qu'on étudie maintenant, ou les Tzeltals, qui sont les voisins, je pense que c'est surtout la manière dont l'univers communautaire est divisé. Et là, j'ai envie de parler carrément de quelque chose qui paraît un peu aberrant, c'est les équivalences. C'est-à-dire le fait, par exemple, que dans toutes les choses du monde et de la vie de tous les jours, il y a systématiquement un aîné, et puis en même temps, quelqu'un qui est majeur, si vous voulez, et puis le petit cadet ou le mineur. Alors ça paraît très simple à expliquer comme cela, mais en fait, c'est au moment où on observe une montagne et que l'Indien vous dit, ben tiens, ça c'est une montagne majeure, ça c'est une montagne mineure. Mmh. C'est-à-dire qu'une majeure a toujours à côté d'elle quelque chose qui est mineur. Alors, quand on entre dans une grotte, c'est la même chose. On vous dit ça, c'est une grotte majeure. Non, ça, c'est une grotte mineure. Elles font pratiquement partie des mêmes pôles. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il ne peut pas y avoir une grande grotte sans qu'il y en ait une petite. Il ne peut pas y avoir une petite sans qu'il y en ait une grande. Alors ça fonctionne pour les éléments, je dirais même une source, les fontaines, comme ils les appellent. Eh bien, il y a la majeure et il y a la mineure. Donc on ne peut pas faire un culte à quelque part sans le reporter sur le côté mineur aussi. Alors immédiatement dans notre tête, on commence à comprendre que quand on... D'ailleurs, ils portent le même nom. Ça, c'est aussi étrange. Vous avez une montagne qui va s'appeler le Mont Blanc et vous avez le petit Mont Blanc qui est à côté. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'ils utilisent simplement un terme comme grand ou petit avec le même nom derrière. Alors que si vous dites Bangkil ou vous dites It's Hin, eh bien on sait que c'est grand ou petit, on sait que c'est majeur ou mineur. Et à l'intérieur de l'église, par exemple, quand on y a pénétré l'autre jour, on a ressenti cette ruche étrange, cette espèce de concert, ces litanies, eh bien là, chaque saint est représenté deux fois. Donc, vous avez un grand Saint-Jean-Baptiste et le petit Saint-Jean-Baptiste. Et la première est toujours naturellement, enfin, la première représentation est toujours une grande statue. Et puis à côté, il y a effectivement la plus petite. On le voit même par la taille. Alors, quand je dis le saint aîné ou le saint cadet, ben, chaque échelon, on comprend dans la hiérarchie communautaire, il y a également deux charges différentes. C'est-à-dire, si vous avez reçu une charge de président, il y a le grand président et il y a obligatoirement le petit président, mais ce n'est pas le vice-président. Il faut bien se comprendre, les deux sont unis. Comme je dirais même, là ça me vient à l'esprit, chez les Aztèques, il y avait effectivement le Tlatoani, et puis il y avait la femme serpent, qui était justement le petit. Il y avait le grand chef et le plus petit chef. Donc je dirais même que...
Le grand chef apprend au petit chef. C'est l'aîné et le cadet, ce que vous disiez tout à l'heure. Le maître et son fils.
Non, c'est le même. C'est ça qui est étrange, parce que ça nous pose déjà un problème familial, et un système communautaire est fait uniquement de liens entre les personnes. Et là, on se rend compte que, par exemple, un frère et un autre frère ne peuvent être qu'un puisqu'ils portent le même nom, par exemple. Là, on arrive déjà au clan, on arrive déjà à toutes les solutions qui vont faire qu'on ne peut pas épouser quelqu'un de son même clan. Enfin, il y a toutes sortes de lois qui commencent à se préciser uniquement avec cette première idée, disons, du partage. Et quand on voit, par exemple, l'idée des choses qui sont créées, pour les Tzotziles, par exemple, il y a une montagne qui devient, vous allez le voir, une sorte de demeure extrêmement étrange avec des niveaux. On va peut-être s'amuser à découper ce monde-là et petit à petit rentrer. Bah, c'est un peu le thème d'aujourd'hui. On va rentrer dans la tête de l'Indien et connaître ses lois, ses fêtes, ses cérémonies.
Maurice, est-ce qu'on sépare également la communauté en deux ?
Alors, il y a des cas étranges, parce que ce que je suis en train de faire, même si vous n'avez pas tout compris par rapport à l'aîné et au cadet, ce qui compte surtout, c'est cet étrange partage des choses et du monde. C'est-à-dire, tout doit être équilibré entre grands, petits, fractions, etc. Eh bien, si je prends... Il y a un village qui m'a semblé, peut-être la première fois que je l'ai visité, le plus parfait dans l'idée précolombienne, là, puisqu'en fait, tout ça remonte aux Mayas. Le village d'Oshuk, qui est un village qui se trouve dans la zone tzeltal, disons à quelques dizaines de kilomètres de Tchamoula. Voilà un village qui est vraiment divisé par une sorte de ligne imaginaire qui passe exactement au centre de l'église, et vous avez une partie nord et une partie sud. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'on a coupé le monde en deux, et vous avez deux fractions qui sont complètement séparées. On appelle ça les Calpules, ça existait à l'époque des Aztèques, on partageait le monde comme ça en morceaux, tout comme les Incas l'ont fait en disant par exemple que leur empire était l'empire des quatre parties.
En fait, c'est une question d'équilibre. Tout
c'est
simplement.
Toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire, une chose ne peut pas exister sans une autre. S'il y a grand, il y a petit. S'il y a moitié, il y a autre moitié. Alors obligatoirement, si vous êtes du côté par exemple de Saint Thomas, ça n'a rien à voir avec la Sainte Trinité qui se trouve de l'autre côté à Oshuk. Et les lignes imaginaires ne se passent même pas. Je veux dire, sur le plan du mariage, c'est très très rare qu'on épouse quelqu'un qui vit de l'autre côté. Alors là, je suis déjà en train d'entrer dans la vie privée. Mais si je prends Tchamoula par exemple, mais c'est normal, c'est une façon, l'Indien a la tête pleine, il a l'horreur du vide et il doit absolument tout structurer. Je vous dirais qu'on ne fait pas autrement dans notre société, simplement que quand on le découvre dans une autre société,
on structure trop. Justement.
Ou chez l'Indien, vous allez voir que ça tient très très bien. C'est-à-dire qu'on fait une vraie construction mentale, une sorte d'architecture mentale. Et par exemple, à Tchamoula, c'est un peu plus difficile. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a trois sections. Mais quand on l'étudie parfaitement, on se dit qu'il y a la grande section qui appartient au grand saint, c'est-à-dire à Saint-Jean-Baptiste. Et tout à coup, on voit qu'il y a Saint-Pierre et Saint-Sébastien qui forment en fait deux petits morceaux qui vont faire une sorte de moitié. Et obligatoirement, les deux petits vont être l'équivalent du grand. Alors, il y a des choses plus curieuses. Si on commence à découper les choses, je dirais que les Tchamoulas découpent même le monde. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait des régions où on appelait les gens des démons, ou des gens qui vivaient de l'enfer, que les Lacandons étaient par exemple des singes, tout ce qui était éloigné était un peu étrange. Eh bien, pour un Tchamoula, par exemple, le sommet du monde, c'est le sommet de sa propre montagne, la grande montagne sacrée, qui est vraiment le sommet visuel, comme si on choisissait le Mont Blanc pour nous. Et puis en même temps, il vous répond que la partie inférieure dans la découpe, ce serait le bas de cette pyramide. Donc c'est le monde chaud, ce sont les tropiques, c'est l'endroit où il va travailler dans l'enfer. Quand il descend travailler dans les plantations de café, il dit vraiment « je descends en enfer ». Alors ça vient de découper le monde en deux dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire qu'involontairement, je suis déjà en train de me dire, il y a un côté inframonde et puis il y a un côté sommet du monde. C'est-à-dire l'endroit où le soleil est à midi, par exemple. Et en l'occurrence, ce qui devient très étrange, c'est que quand on commence à diviser les choses, quand un Indien regarde une montagne, dans sa tête, immédiatement, elle est découpée en 13 niveaux. les 13 niveaux sont ceux qui sont supérieurs. Et sous nos pieds, il y en a 9. Je reparle exactement comme on pourrait parler devant une pyramide maya à Palenque ou à Chichen Itza ou ailleurs. Et en l'occurrence, ce qui est étrange, c'est quand il voit une montagne, il imagine que sur cette montagne, il y a des séries de... J'appelle ça des séries parce que ce sont des couches qui font partie de ce qu'on pourrait appeler les ancêtres. C'est-à-dire que les gens, ils vivent, ils ont été divinisés, il y a une sorte de refuge. Et là, attention, je vais rentrer dans un domaine tout à fait spécial. C'est ce qu'on appelle les doubles en tant qu'animaux. C'est-à-dire chacun d'entre nous, si on était Chamoula, deviendrait et serait en même temps un animal. Et ces animaux, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est là je parle des ancêtres, ou même déjà morts, eh bien, ont existé dans cette montagne à des niveaux différents. Alors cette montagne, elle est conçue comme une espèce de superposition de degrés, et ça reproduit les 13 degrés de ce qu'on appelle sur place le Vinajel ou le Vinachel. Et le Vinachel, c'est vraiment symboliquement ce monde avec ses démons, avec ses morts, avec en même temps ses vies animales étranges et parallèles. Alors il y a d'un côté je dirais l'aspect vivant avec les 13 niveaux, et puis l'aspect morbide, l'aspect enfer que j'évoquais, c'est-à-dire ces 9 niveaux qui sont en dessous. Ce sont des chiffres qui sont repris chez eux de façon tout à fait mathématique, exactement comme on aurait pu le faire à la belle époque où on écrivait des hiéroglyphes, où on gravait ces hiéroglyphes dans la pierre, un peu comme un maya de la belle époque aurait à la fois calculer le temps, l'espace et les choses. Alors ça va beaucoup plus loin parce que dès qu'on commence à rentrer dans les systèmes d'autorité, on va se voir que ça se découpe de la même manière. C'est-à-dire le gouvernement par exemple, il est représenté par des chefs de clan, il y a bien sûr des sortes de lignages et des autorités familiales, et on va voir que systématiquement ce sont les vieillards qui mènent le tout. C'est-à-dire que l'idée de vieillir, c'est évoluer et c'est en même temps monter. Mmh. Obligatoirement, le vieillard est comme un astre, il monte de petit à petit vers la sagesse absolue. Alors, le gouvernement est centralisé et est représenté par une sorte de hiérarchie à la fois politique, bien sûr, mais ce qui compte beaucoup chez eux, c'est ce côté religieux et communautaire. Alors là, ça devient fascinant parce que il faut savoir aussi que pour un Indien, nous sommes faits de 3 choses. Je dirais même de 3 éléments qui sont totalement distincts. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le corps. Ça, c'est le côté matériel. Et le corps, tout le monde sait qu'il est périssable. Mais en même temps, à la mort, le corps retourne à la terre parce qu'il a été formé de cette terre. Et ça, ils le savent très bien sur le plan genèse. Hein. Et le deuxième partie, c'est bien sûr l'esprit. Ça, on le comprend toujours. Là, c'est un langage qui nous est assez commun. Ça, c'est le côté spirituel, qui a même un côté éternel. C'est quelque chose qui va survivre à l'homme, dans l'au-delà, par exemple. Et puis le troisième monde. Alors celui-ci, nous ne le connaissons pas, c'est ce double animal que j'évoquais tout à l'heure. Alors sa nature, elle est beaucoup plus complexe parce que c'est un élément qui est à la fois sensible, qui est naturellement matériel, parce qu'un animal ça existe, et c'est la conjonction de ces 3 éléments qui va créer une sorte de dynamisme qui va assurer non seulement le maintien de votre vie, mais chacun des éléments devra être maintenu de façon absolue. Il n'y est pas possible. Le seul moment de... quand on disjoncte, par exemple, hein, quand il y a quelque chose qui se passe mal, lorsqu'il y a tout à coup un incident, ben c'est ce qui va vous produire, par exemple, la maladie. Et puis, finalement, la mort. Donc, il suffit de décaler ces 3 choses pour qu'on arrive à ce résultat morbide. Et la mort, c'est la désintégration de la personne, mais c'est en fait simplement une rupture entre l'esprit et le corps, et puis entre l'esprit et peut-être le double animal, ou encore le double animal et le corps lui-même. Vous avez 3 parts. Chacune peut se séparer de façon différente. Attention!
The hungry man.
On a vu que les Indiens étaient très très structurés. On a vu trois liaisons possibles entre le corps et l'esprit.
Et puis le double animal.
Le double animal et le troisième.
Le corps, l'esprit et le double animal. Voilà. Vous les avez trouvés. En l'occurrence, on pourrait être assis devant une hutte comme ça, un dimanche matin, avec un rayon de soleil qui se serait levé depuis quelques minutes parce qu'il se lève très tard derrière les montagnes. Et vous pourriez être Juan Pérez Roloté et on pourrait refaire cet apprentissage des choses. Un ladin ne sait pas ce que c'est. Il imagine peut-être qu'on a effectivement une âme et un corps et ça s'arrête là. Tandis que l'Indien a rajouté cette troisième dimension étrange. Et quand j'ai parlé de désintégration au sens mort du terme, eh bien obligatoirement c'est la coupure, comme si on coupait un fil entre le corps matériel et l'esprit, ou alors éventuellement entre l'esprit et puis le double animal, ou encore entre le double animal et le corps. Donc je viens de fermer le triangle. Alors ce qui est curieux, c'est que pour les Indiens, et ça c'est assez complexe, mais c'est extraordinaire à comprendre, parce que là tout à coup le monde commence à s'animer, il y a des choses étranges qui se passent. L'esprit, on l'appelle le kal. Et le kal, c'est quelque chose qui se confond dans l'esprit indigène avec l'essence vitale. Alors essayons de voir ce qu'est cette essence vitale. Ce serait par exemple tout ce qui anime les êtres, ce qui anime la nature, bien sûr, les plantes, les animaux, et puis nous, les hommes, bien sûr. Et cette essence vitale, elle a quelque chose d'indestructible. Elle existe comme de l'énergie, si j'ose dire. Alors ce qui est curieux aussi, c'est que elle peut être divisée et même fractionnée à l'infini. Donc on en fait des milliers de petits morceaux comme ça qui se répartissent. Mais comme c'est une ressource qui est vraiment nécessaire à l'existence, ben je dirais qu'on en trouve dans la terre, on en trouve dans la nourriture. Alors c'est considéré aussi comme quelque chose qui peut pas s'étendre à l'infini, qui n'est pas inextensible. Elle est donc très rare, c'est une matière extrêmement rare. Et finalement, quand on la reçoit, c'est-à-dire qu'on la capte ou qu'on l'accapare en plus ou moins grande quantité, à titre individuel, hein, c'est un peu comme si on volait quelque chose, qu'on attrapait quelque chose. Et puis, cette fraction individuelle, mais elle n'est pas personnalisée, c'est une matière en soi, c'est une énergie en soi. Eh bien, chaque homme la possède et il s'efforce finalement d'accroître ce qu'il appelle son tchoulel, c'est-à-dire son âme au sens beaucoup plus large du terme. Alors, c'est très curieux parce que pour eux, ça se localise finalement dans le corps. Et ça se localise plus exactement dans le poignet, parce que quand on prend le poignet, on sent le pouls. Mmh, et le pouls, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous l'avez naturellement, ce tchoulel. Mais finalement, quand on l'écoute comme cela, on sait que nous en avons. C'est-à-dire qu'on sent bien que notre cœur bat, et on le sent surtout là, au poignet. Mais on sait que le double animal que nous avons est également vivant, puisqu'il a aussi un pouls, il a aussi un cœur. Et finalement, ça se manifeste comme ça à la naissance. Et au départ, l'homme a très peu de cal, il reçoit très peu d'énergie, si vous voulez. Donc son choulel est tout petit, il est tout faible. Et c'est pour ça qu'on doit s'occuper de l'enfant, parce qu'un enfant, un bébé, c'est très vulnérable. Une femme, quand elle traverse la rivière et qu'elle a peur, qu'elle prend un petit caillou et qu'elle le lance de l'autre côté, simplement pour que ce choulel ne s'échappe pas avec la rivière. C'est la fragilité de ce choulel qui lui fait peur. S'il perdait ce peu de cal qui lui reste, obligatoirement son poignet s'arrêterait de battre. Mmh. Et alors petit à petit, en vieillissant, et en prenant de l'âge, vous allez vous acheminez petit à petit vers la vieillesse, et l'homme, il accroît cette petite fraction de cal, et plus un homme est vieux, plus est grand son tchoulel en même temps, puisque c'est un peu le réservoir. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il a une sorte de détention, une sorte de quantité d'importance de son tchoulel qui va augmenter. Donc on comprend pourquoi les vieillards sont les gens les plus intéressants. Alors le double animal, il a exactement le même dépôt, je dirais qu'il est co-dépositaire, si je peux m'exprimer comme ça, de ce cal. Et il peut avoir des noms différents, ça c'est pas très important. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce totem, moi je veux l'appeler comme ça, c'est plus simple, cette espèce de totem individuel, il est complètement lié à l'homme, on le comprend, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et chaque fois qu'il y a une expérience, qu'elle soit de l'animal ou qu'elle soit de l'homme, elle va marquer obligatoirement son empreinte sur l'autre. C'est-à-dire, si l'animal est tué, l'homme meurt. Si l'homme fait une erreur, l'animal aura des problèmes aussi. Alors, lorsque l'enfant naît en même temps que lui, là je parle de l'animal, lui il va naître dans la montagne, dans cette fameuse montagne découpée de petit animal. Et si son destin, il va se confondre complètement avec le sien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous conservez...
C'est un animal précis ou...
Ah, tout à fait. Ouais. Et il y a même des façons de le rencontrer.
Mais par individu ou...
Par individu. Ah. Frédéric, vous auriez pu, à l'âge de 10 ans, rêver à votre double animal. Et si par hasard, c'était un jaguar, ben vous serez un jour sorcier. Si c'est un petit animal, vous allez garder des fonctions tout à fait normales. Il y a sûrement un double animal pour un animateur de radio. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instant où vous tombez malade ou que vous mourrez, ben l'autre aura exactement la même maladie et va mourir exactement à la même seconde. Alors, on comprend aussi pourquoi les Indiens disent que c'est totalement interdit de tuer un double animal. C'est le voyorel. Bon, vous me direz qu'il peut être tué au cours d'une partie de chasse. Bon, mais c'est très rare qu'on chasse dans des lieux où on sait que vivent les doubles. C'est-à-dire, vous n'allez pas monter sur la fameuse montagne sacrée parce que vous risquez de rencontrer cet animal. Oh, j'ai même entendu des espèces de définitions comme ça. C'est curieux. Oh, le double animal, on n'a pas beaucoup de risques parce qu'il a 5 pattes. Enfin, il est un peu différent de la norme. Mais ce qui est fantastique, c'est que si par hasard vous en tuez un, ça peut arriver. Pour un Indien en tout cas, parce qu'il y croit bien sûr, il faudra immédiatement brûler ses restes. Parce que en manger, ça reviendrait tout à fait à manger de la chair humaine.
Set me free. Oh, girl.
Est-ce que dans ces croyances indiennes, est-ce que les caractéristiques de l'homme sont les mêmes que l'animal?
Ah oui, ça c'est même la chose évidemment importante. C'est-à-dire, l'homme et son double animal, ils ont non seulement les mêmes caractéristiques physiques, je dirais les mêmes caractéristiques morales, mais également intellectuelles. Parce que quand on observe tout cela, on comprend qu'un homme qui est fort, un homme qui est très astucieux, un homme qui serait totalement indépendant, obligatoirement, je pense au puma, je le disais tout à l'heure, au jaguar, on pourrait penser à l'oslo. Par contre, si vous êtes un peu faible, si vous êtes un peu timoré, vous êtes assez facile à influencer, alors là, je dirais que c'est plutôt un animal qui serait débile, qui serait plus craintif, qui serait même un peu grégaire. Alors là, je sais pas, j'aurais peut-être choisi juste dans la même catégorie, puisqu'on reste dans les félins, j'aurais choisi le lynx, peut-être le renard, même si c'est pas un félin, ou le chat sauvage, tout simplement, qui lui a un tout autre comportement. Alors théoriquement, l'homme possède en fait le même double animal pendant toute la durée de son existence.
Mm-hmm. Mais il évolue.
Mais il n'empêche que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'animal que le groupe attribue à quelqu'un, comme Voyorel, comme on l'appelle sur place, il peut varier au fur et à mesure que vous avancez en âge, et c'est surtout selon votre façon d'avoir su prendre ou disposer plutôt du cal. Hein. Plus vous avez de cal, plus vous allez monter, plus vous allez être fort, plus vous allez être indépendant. Alors un jeune homme qui est célibataire, je ne sais pas s'il travaille chez ses parents, par exemple, il a un tout petit choulel, et finalement ça c'est le réservoir. Hein. Mm-hmm. Et il aura naturellement un Voyorel, c'est-à-dire un double de catégorie assez inférieure. Et puis tout à coup, lorsqu'il est marié, qui va avoir des enfants, qui va assumer des grandes responsabilités dans sa communauté, c'est-à-dire qu'il va monter petit à petit les échelons, je dirais presque monter cette fameuse pyramide, comme si on grimpait sur la montagne, mm-hmm. Obligatoirement, son entourage même va lui dire « t'as un tchoulel absolument formidable ». Donc son double, son Voyorel va également changer de catégorie, et il aura franchi petit à petit le seuil de la vieillesse, par exemple, et là, je dirais que obligatoirement, on va le comparer à un jaguar ou à l'oslo tout à l'heure. Alors, il y a naturellement une sorte de réévaluation un peu constante de cette force qui est en vous, de cette sagesse qui est en vous. Et le Voyorel, il fait exactement la même chose. Il évolue dans sa propre petite montagne. Mmh. Là, et le statut suit exactement le statut de l'homme. L'élévation par rapport aux membres de la communauté va changer. Alors, quand je disais qu'ils élisaient domicile dans les montagnes, ce sont naturellement les plus hautes de la communauté. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. C'est un peu comme dans le Jura. On est dans une situation à peu près identique. On vivrait dans une vallée et autour de soi il y a toutes ces montagnes. Alors on donne même des noms qui nous font penser que ces gens-là pensent exactement comme il y a 1000 ans ou 1500 ans. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là vous l'avez compris, vous l'avez traduit vous-même, les niveaux les plus élevés sont occupés par les animaux les plus rares, les plus forts. Je suis obligé de reparler des mêmes, c'est mon puma, mon oslo, mon jaguar est naturellement tout au sommet. Donc ce sont des choses puissantes, ce sont des animaux puissants, des hommes puissants. Et si ces personnes qui sont très âgées ont naturellement plus, elles sont là-haut. Tandis que les jeunes, les enfants, les bébés, vous les mettez un peu en bas, un peu comme vous mettriez les animaux faibles. Je crois que c'est très simple à comprendre, mais finalement, c'est une idée qui va nous permettre d'avoir en même temps une sorte de niveau avec une sorte de montagne qui en rapport est devenue clanique. On a l'impression de voir le clan se dessiner petit à petit. Et au fur et à mesure que passent les années, vous gravissez ainsi chaque niveau et jusqu'à ce que vous atteigniez le 13e niveau, le dernier des niveaux. Alors cette ascension à l'intérieur de la montagne, elle dépend de l'âge, ça je crois qu'on l'a compris. Et finalement aussi, quand on accède au sommet de la montagne, on va rentrer en contact avec ce qu'on appelle les pères et les mères qui sont collectifs.
Oula,
c'est-à-dire que les ancêtres, ceux qui sont déjà morts, ils vivent dans le ciel. Donc c'est un peu comme nous, on voit le paradis de Dante, on imagine ça très bien. Et si à l'intérieur, vous avez ces doubles d'animaux, eh bien tout au sommet, il y a ceux qui avaient déjà la sagesse, qui vont aider, qui vont même vous aider, communiquer avec vous. Parce que n'oubliez pas l'Indien d'or, l'Indien rêve, l'Indien boit. Avant, il se droguait encore. Tous ces espèces de véhicules étranges lui permettaient de rentrer dans cette autre partie du monde qui fait partie de nous, qui est tout aussi vitale et aussi vivante que la nôtre. Et à partir de là, eh bien, obligatoirement, dans ce 13e niveau, il y avait des vrais contacts. Et vous étiez à la pointe du contact. On rentrait presque en émission, si j'ose dire, comme si on avait une sorte d'émetteur. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de savoir que... Il y a un côté berger et mouton, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs dans sa vie, et ceux qui sont en haut, qui sont en communication, ils vont tout faire. Ça devient les véritables bergers de la communauté, et ils vont protéger et assurer la subsistance de tout le monde. Ils vont veiller à ce que personne ne s'égare, qu'on ne soit pas attaqué, que les doubles d'animaux ne s'attaquent pas entre eux, que ceux d'une autre montagne ne viennent pas vous embêter. Alors ça devient très très fort, parce que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est malade, ben, tout à coup, je viens d'inventer la guérison, la façon de soigner, d'éviter les grandes maladies, les épidémies. Alors imaginez-vous, Frédéric, que vous soyez au sommet de la montagne avec moi, et que nous sachons qu'il y a une épidémie incroyable dans la communauté d'à côté. Eh bien, nous allons, nous, être capables de prendre cette épidémie en charge, de lutter contre ces forces négatives, et de protéger ainsi l'ensemble de la communauté. Donc au pire, on va lutter comme dans un état de guerre, contre le mal, et on va pouvoir protéger ses semblables, tout simplement parce qu'on est plus haut, qu'on est plus sage et qu'on est plus vieux. C'est pour ça que chaque fois qu'on voit un vieillard, on s'agenouille, on se met vraiment à terre, il avance ses deux doigts devant vous avec la main inversée, il vous touche le front, vous pouvez vous relever. Le respect du vieillard chez un chamoula, c'est quelque chose de fabuleux. Parfois, on a juste un tout petit rien d'humide au coin des yeux.
Nous sommes au sommet de cette montagne, hein. Chaque village a sa montagne, chaque clan a sa montagne, et donc nous sommes au sommet de cette montagne, c'est le 13e niveau, il n'y a que des montagnes, hein. Et qu'est-ce qui se trouve justement au sommet de cette montagne ?
Alors c'est pas au sommet, parce que le sommet n'a pas changé, il y a toujours quelques pins, il y a toujours du vent, il y a un peu de brume, il y a un peu de soleil, il y a quelques moutons éventuellement, c'est l'intérieur. à l'intérieur de chacune des montagnes que vous voyez dans le paysage Chamula ou dans le paysage de ces montagnes des Chiapas au Mexique, il y a une chambre, par exemple, qui est ornée d'une grande croix et devant laquelle on va retrouver les voyorel, c'est-à-dire ceux qui habitent ce 13e niveau, ce 13e étage, ce gratte-ciel mental. Et dans cette pièce, eh bien, ces gens-là vont créer des sortes de procès de tous les doubles, de tous ces doubles animaux qui eux-mêmes, ils ont cette charge spirituelle, je dirais aussi matérielle de tout le monde. Et bien là, on va par exemple s'occuper des interdits, on va s'occuper de tous les péchés finalement, un peu comme on les interprète. Et là, en accord avec ceux qui sont encore en dessus, c'est-à-dire mentalement ces fameux ancêtres qui sont déjà morts, mais qui sont des sages, et bien on va choisir les fautes, on va choisir le châtiment approprié.
C'est une sorte de purgatoire.
Oui, entre les animaux, entre les doubles. Et alors obligatoirement, ça c'est impressionnant parce qu'on me l'a raconté une fois, vous avez l'animal coupable qui est là. Alors, selon la façon de faire le jugement, on va l'asseoir à gauche ou à droite de la croix et la punition sera légère ou elle sera au contraire très sévère. Et si, par exemple, on sait que l'animal a été attaché à la croix, eh bien, le coupable, incontestablement, va subir la peine de mort. Mm-hmm. Mais en même temps, l'Indien, le vrai, est mort aussi. Alors ça devient impressionnant parce que là, on commence à être un peu obsédé par ce double monde. Et puis le fait de regarder une montagne toute simple, et au moment où on l'habite comme cela, ça devient impressionnant. Alors, les seuls qui connaissent tout, ce sont les vieillards, les fameux molles, comme on les appelle sur pas. Alors, le molle, c'est celui qui inspire, en fait, qui commande le respect, l'obéissance. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'agit... On doit s'agenouiller devant eux et ils vous touchent le front là, du revers de leurs doigts. Alors, chaque fois qu'on vient consulter un vieillard à son domicile, il faut lui offrir de l'eau de vie. C'est la meilleure chose qu'on puisse offrir. Et puis, à l'occasion des fêtes, quand l'alcool circule comme ça entre tout le monde, il y a vraiment abondance d'alcool, c'est lui qui se sert le premier. C'est à lui qu'on offre les premières gouttes d'alcool. Et un molle, je dirais qu'il a tout un système d'échange autour de l'alcool. Parce que l'alcool est interdit, finalement. C'est seulement un véhicule qu'on peut utiliser dans les moments de fête. Et s'il veut évaluer son prestige, s'il veut savoir s'il est bien dans la communauté, le vieux molle, ou le molle vieux si vous préférez, ben, en l'occurrence c'est celui qui va recevoir le plus d'invitations à boire, etc. Donc il y a ce contact étrange. Alors quand ils ont vécu très très longtemps, on dit qu'il y a des phrases comme ça extraordinaires chez les Indiens. Quand ils parlent d'un vieux, ils disent « il voit le monde de façon plus claire ». C'est vraiment des gens qui sont devenus sages. Et on dit aussi « celui qui porte la sagesse ». Alors j'aime beaucoup cette image du vieillard parce qu'on ne la connaît plus chez nous finalement et c'est lui qui va naturellement se transformer, ses paroles, ses actes, il y a une espèce de puissance comme ça, il y a un côté métaphysique qui s'installe en lui et il est dépositaire d'un tas de pouvoirs bien sûr et instantanément il pèse ses mots.
Je vais vous couper juste une toute petite question, est-ce qu'à cette époque-là on vivait justement très âgé?
52 ans, c'était chez les précolombiens l'âge rêvé pour passer dans le stade molle, parce que c'était un chiffre sacré.
Donc on allait jusqu'à 52 ans, c'est ça?
Non, ça veut dire qu'à partir de 52 ans, on était vraiment sage, parce que le temps était fini entre les deux calendriers. Mmh. Bon, aujourd'hui, on trouve des vieillards qui ont 60, 70 ans, 80 peut-être, mais ce sont des gens qui peuvent tout faire, qui savent tout faire. Et c'est cette lenteur, il n'y a jamais de colère, il n'y a jamais d'envie, il n'y a plus de jalousie. Ce sont des gens qui n'ont plus de chagrin, qui n'ont plus d'allégresse, ils ne sourient jamais vraiment.
Et on manque la sagesse.
Totalement, et ils sont accessibles à tous, ils sont disponibles à tous, et je dirais que leur personne ne leur appartient plus, puisqu'en fait, ils appartiennent déjà au groupe de descendance, ils sont déjà de futurs ancêtres, qu'ils le veuillent ou non, et ils représentent en fait, face aux autres indigènes, face aux vivants, ils représentent déjà les morts. Il représente déjà les esprits. Alors, on verra peut-être la prochaine fois à quel point ces molles sont extraordinaires, puisque certains d'entre eux sont des guérisseurs. Et à partir de là, on va voir comment ils contrôlent l'ensemble de la communauté et comment on va gérer à la fois la guérison, les sacrifices, les fêtes, les offrandes, tout ce que l'Indien... Et il faut quand même savoir qu'il passe pratiquement 30% de son temps, comme vous avez passé une heure, eh bien 30% de leur temps n'est consacré qu'à ces choses-là. Et quand on les voit travailler au champ, ils ne pensent pas que dans leur tête. Ils pensent à la montagne d'à côté, qu'ils l'ont remplie, qu'ils l'ont occupée. L'esprit indien est un esprit plein, nous l'avons dit, il y a l'horreur du vide. Eh bien, petit à petit, quand on remplit tout cela, on peut redevenir un Juan Pérez Roloté. Il faut bien 10 ans pour redevenir Chamula.
On se retrouve
la semaine prochaine, toujours à la tête d'un Indien.
Dimanche, entre 11h et midi.